Allô, allô, ici Ciné Herri.
Le film américain de Lewis Milestone, All Quiet on the Western Front, À l'Ouest, rien de nouveau, sort en 1930, l'année où apparaît le cinéma parlant. Il s'agit d'une adaptation très fidèle du roman éponyme de l'écrivain allemand Erich Maria Remarque, Verstehen nichts Neues, dans lequel ce dernier livre le témoignage du simple soldat qu'il fut durant la Grande Guerre. Cet ouvrage pacifiste et antimilitariste, qui parut en 1928, connut immédiatement un succès mondial. Encore à ce jour, il reste l'un des récits les plus bouleversants qu'on ait écrit sur le premier conflit mondial. Alors que la guerre vient d'éclater, le lycéen Paul Boehmer et ses camarades sont incités à s'enrôler comme volontaires par l'un de leurs professeurs ultra-nationalistes. Dès les premiers plans, celui-ci se félicite par exemple que 30 000 soldats français aient été tués dans la journée et que bien davantage encore de soldats russes soient quotidiennement faits prisonniers. En cours, il harangue ses élèves à prendre au plus vite l'uniforme. « Nous devons frapper de toutes nos forces. Les cœurs purs ne connaîtront pas la peur. Engagez-vous sans hésiter. Vous serez acclamés par la foule, vous serez couverts de lauriers. La guerre sera vite terminée et les pertes seront légères. Et pour vous, la défaite serait pire que la mort. Si vous aimez votre pays, vous devez lui donner chaque goutte de votre sang. Engagez-vous tout de suite. » Se montrant très va-t-en-guerre, ces jeunes élèves lui répondent dans un grand élan d'enthousiasme et d'allégresse ludique. Je veux y aller, je suis prêt, nach Paris. Pour eux, il s'agit avant tout d'une aventure excitante, d'une expérience sportive et virile qui va les aguerrir, pensent-ils. Ils se réjouissent donc tout d'abord, persuadés que la guerre sera courte, fraîche et joyeuse. En outre, ils se félicitent d'échapper ainsi à l'ennui de leur routine scolaire. Mais bientôt, la liesse guerrière, l'atmosphère de kermesse, les défilés en fanfare, la joie belliciste vont céder la place à l'horreur de la guerre. Et Milestone rend le spectateur témoin de leur descente aux enfers. Du camp d'entraînement, aux batailles du front, au combat, au corps à corps, en passant par les corvées de barbelés. Il suscite notre empathie et notre identification au personnage. Cette armée de poussins, ces enfants, ces gosses, comme les appelle le soldat Kaczynski, découvrent tout d'abord les humiliations, les brimades infligées par leurs supérieurs. Quant à l'obsession de la nourriture, elle est constante. L'un d'eux dira: Encore 2 jours comme ça et on sera même content de bouffer du rat. Tous en viennent à se conduire comme des brutes, tant ils sont affamés. Ainsi, lorsqu'au cours des combats, 70 hommes périssent ou sont blessés et ne reviennent pas au campement, les 80 soldats qui se présentent pour retirer leur portion de nourriture se réjouissent que le cuisinier leur livre les 150 portions prévues pour l'ensemble de la section du régiment. La peur au ventre, parfois même gagnée par la panique. Ils subissent les bombardements, le feu de la mitraille, le bruit assourdissant, l'absence de sommeil qui les rend fous, les poux et la boue qui ne les quittent plus. Lorsqu'ils se rendent à l'hôpital pour voir un de leurs camarades, ils découvrent qu'il vient d'être amputé d'une jambe. Celui-ci souffre, mais ignore encore son état, avant de le découvrir dans un miroir et de mourir peu après. Cette scène d'anthologie nous livre un moment émouvant d'une grande cruauté, au cours de laquelle l'un d'eux s'exclame: À quoi bon qu'il garde désormais ses bottes? Parce qu'il les convoite. Dans l'hôpital, les amputations se font à la chaîne, les mutilations s'accumulent, la mort rôde toujours et partout. Le sentiment de précarité ne les quitte plus. Alors que l'un d'eux révise dans leur chambrée un exercice de mathématiques appris à l'école, un de ses amis lui dit: Mais à quoi bon? À quoi cela te servira-t-il? Bientôt tu seras mort et tout sera gâché. Progressivement, on les voit prendre conscience qu'ils ne sont rien de plus que de la chair à canon, et qu'un jour proche, ils ne pourront pas échapper à la mort. Mi-amers, mi-désabusés, ils font leur compte. Sur leur classe de 20 élèves, 3 sont devenus officiers, 9 sont morts, 4 ont été blessés et un autre se trouve à l'asile. Mentionnons une autre séquence emblématique du film, celle très émouvante de fraternité au cours de laquelle Böhmer se retrouve dans une cuvette d'obus avec un soldat français qu'il vient de poignarder. Ce dernier gémit tout d'abord, agonise longuement avant de mourir. Böhmer en souffre et s'en désespère. En pleurs, il implore son pardon et se met alors à lui parler, allant jusqu'à lui dire qu'il est chanceux finalement d'être mort, car lui, au moins, en a fini avec cette guerre. En contrepoint de ces scènes terribles, Milestone a tenu à nous montrer ces très jeunes gens, se baignant dans une rivière et comptant fleurettes à de jeunes filles françaises avec lesquelles ils s'amusent et passent un moment à rire et à se détendre avant de repartir sur le front. Ce faisant, Milestone souligne leur jeunesse, leur désir éperdu de vivre. On les voit se déguiser comme des enfants qu'ils sont encore, et flirter comme des hommes qu'ils ne deviendront jamais, car tous connaîtront bien vite la mort. Lorsqu'ils partent sur le front, c'est donc avec beaucoup de fatalisme qu'ils plaisantent sur leur mort prochaine. « Regarde, de jolis cercueils pour nous !» Lorsque Böhmer se retrouve hospitalisé, c'est avec le même état d'esprit désenchanté que son voisin de lit lui détaille tout l'intérêt qu'il y a d'être blessé et d'échapper ainsi au front. Il lui déclare dans un grand éclat de rire « J'espère que vous n'êtes pas trop gravement blessé, parce que les autres, ils meurent avant qu'on ait eu le temps de faire connaissance. » C'est lui encore qui l'affranchit sur la gestion des lits récupérés avant même que les blessés ne soient morts. Il suffit, dit-il, de les envoyer au mouroir, juste à côté de la morgue. Cette antichambre de la mort s'avère en effet commode pour assurer une meilleure rentabilité d'occupation des salles. Ah, c'est bien pratique, j'en ai vu beaucoup y partir et aucun n'en est jamais revenu, s'esclave-t-il. Lorsque Paul Böhmer retourne dans sa ville au cours d'une permission, c'est un garçon brisé qui revient et rend visite à son maître dans son école. Celui-ci cherche toujours à enrôler ses nouveaux élèves et invite Paul à leur dire quelques mots afin de bien les endoctriner. C'est alors qu'il laisse aller sa colère. On vit dans les tranchées, on se bat, on n'y arrive pas toujours, on vous a fait confiance. Mais tout cela s'est écroulé avec les premiers obus. Ces millions de morts, à quoi servent-ils? Là-bas, on sait que l'on est fichu, que l'on soit mort ou vivant. Cela dure depuis 4 ans. Chaque jour nous semble une année, chaque nuit un siècle. Nos corps, nos pensées ne sont plus que boue. On dort, on mange avec la mort. Il est impossible de vivre avec ça en soi. La dernière scène du film, bouleversante, renvoie aux dernières lignes du roman d'Éric Maria Remarque. Il tomba en octobre 1918 par une journée qui fut si tranquille sur tout le front que le communiqué se borna à signaler qu'à l'ouest, il n'y avait rien de nouveau. Il était tombé, la tête en avant, étendu sur le sol, comme s'il dormait. Lorsqu'on le retourna, on vit qu'il n'avait pas dû souffrir longtemps. Son visage était calme et exprimait comme un contentement de ce que c'était terminé. Ce film a été interdit par les nazis dès leur arrivée au pouvoir en 1933.